RMC, entre les poteaux, Wilfried Templier.
Salut à toutes et à tous, une de plus, c'est déjà fini, la saison régulière du Top 14 s'est achevée ce week-end, 26e et dernière journée qui a donc livré son verdict, même si on a parfois plus de suspense les années précédentes, puisque les 6 qualifiés avant la dernière journée le sont restés et le barragiste Perpignan n'a pas pu doubler Pau, le 12e. Mais c'est surtout une autre saison qui commence, celle qui va se jouer en 3 semaines pour savoir qui va succéder à Montpellier, champion l'an passé et au passage 11e du classement final cette saison. Lyon, le Stade Français, le Racing et Bordeaux-Bègle ont la lourde tâche de faire mentir tous les pronostics qui s'accordent à voir Toulousain et Rochelet déjà en finale. Eux qui seront tranquillement dans leur canapé le week-end prochain pour regarder leurs futurs adversaires s'écharper en barrage. Un barragiste, justement, peut-il créer la surprise? On verra qu'il y a bien longtemps que c'est pas arrivé. Stade Français Racing, Lyon UBB, voici les affiches à venir. On va se pencher sur leur dernière performance et vous verrez que c'est pas toujours linéaire. Ça sent bon en tout cas, les derniers matchs couperés, le soleil, les trompettes des supporters. Et en parlant de trompettes, on en a une sacrée bande aujourd'hui. Denis Charvet va vivre.
Toi.
Denis Charvet va vivre sa meilleure époque de la saison. Denis, les phases finales, il n'y a que ça de vrai là.
Il n'y a que ça de vrai. Je les ai vécues en tant que joueur, mais en tant que spectateur, c'est pas mal non plus. Et on va avoir de beaux barrages.
Les dernières phases finales de Julien Landry, c'était il y a combien de temps? Je parle sur un terrain. Des phases finales en curling bâton, ouais, peut-être. Ouais. Je suis chaud, moi, d'entrée, les gars. Je balance un peu trop, peut-être. Pierre Amiche.
Oh, oui, il en a joué beaucoup, lui.
Ouais, j'en ai fait quelques-unes. Bon, après, à petit niveau, mais j'en ai fait quelques-unes, Denis. Encore une fois, ton mépris vis-à-vis de moi commence à être un petit peu dérangeant, Denis.
Commence à me faire du mal. J'ai aucun mépris, j'ai que de l'amour pour toi.
Commence à me faire du mal. Jack, il y avait Templier, maintenant Charvet.
Non.
Le groupe vit très mal ses phases finales, j'ai l'impression.
Ne te méprends pas.
On croirait le loup, quoi. C'est tendu dans les vestiaires et tout. On va être champions, les gars, ensemble. Nouveau départ. Ils sont 6 sur la ligne. Ils n'ont pas tous le même moteur. Et certains sont en pôle. Reste à savoir qui passera sous le drapeau à Damier.
À l'instant, l'essai du bonus offensif pour les Lyonnais par Jonathan Pélissier, le futur retraité. Donc ça fait 6 à 3 niveau des essais. Et voilà le loup qui se repositionne avec ce bonus offensif.
Oh, peut-être l'essai pour La Rochelle qui ferait mal à cette équipe de Paris avec des Rochelais qui ont joué au foot là sur 60 mètres avec deux dribblings. Et peut-être que ce ballon a été aplati par Harreglin. Voilà La Rochelle qui repasse devant et ça fait pas du tout les affaires de Paris.
C'est terminé, la victoire de l'ASM Clermont-Auvergne, la 6e victoire à domicile en 2023 sur 6 matchs. Victoire de prestige 32-25. Le Racing ne ramènera rien de son déplacement à Clermont. Le Racing devra aller chercher sa qualif en demi-finale.
Mataoufi Fenua qui va marquer le 7e essai. Les Lyonnais donc qui l'emportent au final 53-19 et qui vont terminer 3e et auront un barrage la semaine prochaine à domicile face à l'UBB.
C'est terminé, victoire de La Rochelle. Score final 14-10. Paris terminera finalement 4e de ce classement, mais recevra en barrage et c'est l'essentiel pour les hommes de Gonzalo Quesada.
Alors on a gardé les 6 qualifiés, mais l'ordre s'est inversé, de 6e à 3e. Lyon a fait le gros coup en allant chercher un barrage à domicile après sa victoire 53-19 sur Bayonne. Et Stade Français 4e sauve les meubles en recevant en barrage malgré sa défaite face aux jeunes Rochelais, puisque les cadres étaient préservés à La Rochelle. Le Racing n'a pas été capable d'en profiter en perdant à Clermont. Et l'UBB, battu 35-19 à Toulon, reste comme elle était, barragiste à l'extérieur. Une question déjà, quel barrage vous excite le plus, Denis, entre les deux?
La confrontation entre le Stade Français, évidemment, et le Racing, qui reste un derby, et on sait tous les pas les reproches, mais toute la tension qu'il peut y avoir entre ces deux clubs, ces deux présidents, ces supporters. Donc, effectivement, on attend ça avec impatience. Et puis, je pense que c'est un barrage qui est très partagé, quoi. C'est-à-dire, pour moi, c'est du 50-50, même si on peut toujours penser, vu les stats et vu le match à domicile, ça n'existe plus. Moi, je pense que là, ça, c'est du 50-50.
Et puis surtout que le Racing en avait pris une bonne à domicile contre le Stade Français, que le Stade Français a été gagné que le Racing a été gagné au Stade Français en plus. Donc c'est vrai que les deux sur cette saison,
il n'y a pas trop de règles
exactement. C'est presque ça. Le Racing a l'avantage de se déplacer.
Denis, toi, tu avais misé sur le loup avant ce dernier match. Alors attendez, parce qu'il nous a fait un cinéma.
Oui, mais je voulais...
Il veut dire qu'il avait
les
barragistes dans l'ordre. Mais tu avais misé sur le loup,
alors,
c'est vrai, je l'avais écrit avant le dernier match.
Pour nos auditeurs, ils pourront aller sur le podcast précédent. Et là, j'ai annoncé le 3, le 4, le 5 et le 6. Effectivement, pourquoi j'avais dit Lyon ? Lyon, j'avais dit, ils reçoivent Bayonne et je ne voyais pas du tout Bayonne inquiéter le loup, qui avait une carte à jouer à domicile en prenant un point de bonus offensif. Il pouvait aller chercher cette troisième place. Donc j'avais anticipé, si tu veux, je pensais qu'il pouvait vraiment se replacer dans la course. Et après, le 4, le Stade français, je ne voyais pas le Stade français aller faire un mauvais résultat à La Rochelle qui allait faire tourner. Et puis le Racing, on sait que le Racing, ah oui. Ben, c'est sans arrêt le yo-yo. Et que là, clairement, encore une fois, ils sont passés au travers en seconde mi-temps. J'avais aussi anticipé sur le Racing. Et puis avec le Bordeaux qui a fait qu'on savait déjà plus ou moins qualifié. Mais c'est vrai que le Loup, quand même, nous a surpris parce que mettre 50 points à Bayonne, ce n'était pas évident non plus.
Pierre, c'est vrai que ça paraît fou un peu pour le Loup. Parce qu'il y a un peu plus de deux semaines, les joueurs vont voir le président Roubert pour évoquer des problèmes relationnels avec leur manager, avec Xavier Garbajosa. Il y a eu cette remontée en deuxième mi-temps au Stade français. Là, il me passe 50 points à Bayonne. Alors, déjà une question, est-ce que alors, on n'a peut-être pas toutes les infos, mais est-ce que tout est réglé ?
Manifestement, sur le terrain, sur le terrain, on a l'impression que oui, mais en coulisses, probablement pas. Déjà parce que les coachs qui sont remis en question par leurs joueurs, ça arrive tout le temps, mais des coachs qui sont remis en cause par leurs joueurs devant leur président, c'est déjà plus rare. Et que je pense que Xavier Garbajosa, qui n'est pas forcément quelqu'un de forcément très rancunier, mais pas très sympathique non plus, je pense qu'il n'oubliera pas. Enfin, il est très sympa, mais il n'oubliera pas. Voilà.
Reprends ta formule. Ouais.
Voilà, je vais reprendre la formule. C'est quelqu'un de très sympa, mais il ne faut pas non plus l'embêter. Je pense que voilà, c'est plus clair dit comme ça. Ouais. Et l'autre chose qui est assez drôle, c'est un jour, Pierre Berbizier m'avait dit, tu sais, Pierre, les joueurs qui se plaignent dans mon vestiaire, il y en a beaucoup. Beaucoup, hein, qui viennent me demander pourquoi je suis pas titulaire, pourquoi je joue pas, pourquoi si, pourquoi mi. J'ai jamais personne qui vient me remercier quand je les mets sur le terrain. C'est un peu pareil quand il y a des équipes qui ne gagnent pas. Souvent, ils vont se plaindre ils vont expliquer pourquoi ils ne gagnent pas. C'est un peu plus rare de les voir féliciter un entraîneur qui gagne. C'est toujours la même chose. Et puis, vous êtes aussi bien placé que moi pour savoir que quand les joueurs parlent de leur entraîneur, c'est souvent pour dire qu'ils sont pas très bons, qu'ils sont pas très si, qu'ils sont pas très mi. C'est rare qu'ils leur disent qu'ils leur dressent des louanges. Et puis, la dernière chose, c'est que Lyon peut féliciter le Stade français, en tout cas remercier le Stade français, parce que je crois que le Stade français s'est trompé de match à domicile quand ils menaient aussi largement que ça. Ils ont fait une deuxième mi-temps fantomatique et ça a permis à Lyon de se relancer et de gagner de la confiance. Et puis...
Non mais tu as raison de dire ça, en plus je te coupe, excuse-moi.
Non, pas de souci, Denis.
C'est vrai que j'étais à Jean-Moi ce jour-là. C'est inexplicable, inexplicable de perdre un match, de faire un match nul après avoir mené 28-0. C'était une faillite collective totale. Et alors même si Lyon a été bon en seconde mi-temps, c'est Stade français
a
offert la qualification.
C'est ça.
Au Loup, quoi. C'est quand même invraisemblable. Donc, ils peuvent être contents de ce cadeau du Stade français. Mais en même temps, bon, après ils sont allés se le gagner ce week-end.
Il y a juste une limite, c'est la blessure de Léo Berdeux qui va faire très mal à Lyon. Et même si sur le terrain, l'équipe a été bonne face à Bayonne, sur les matchs de phase finale, je pense que ça va pas forcément être la même musique.
Encore que Sopoaga revient à un niveau qui était quand même intéressant par rapport au niveau qui était le sien il y a 3-4 mois, il me semble.
Juste avant d'écouter Félix Lambé, Julien, t'as dit, quand j'ai dit est-ce que tout est réglé, toi t'as dit non, comme ça.
Non.
Pourquoi t'as eu des échos ou c'est...
J'ai eu quelques échos. Ben, c'est un peu ce qui se passe à Bordeaux à la saison dernière. Alors Bordeaux s'est parti en cacahuète après les demi-finales, mais ils avaient aussi dit que tout était réglé. Mais les joueurs, ils ont... Exactement, les joueurs, eux, ont envie d'aller chercher quelque chose en fin de saison, et s'ils peuvent aller soulever le bouclier, mais ce qu'ils se plaignent de Garbajosa, ils ne s'en plaignent pas depuis 15 jours, ça fait depuis plusieurs mois qu'ils ne
sont pas satisfaits. Oui, management assez directif, assez...
Pour connaître un peu Xavier quand il était déjà à Montpellier, et c'était déjà un peu les mêmes reproches qu'on lui faisait à Montpellier, donc je n'ai pas l'impression que même s'il dit « oui, j'ai changé, j'ai compris qu'il faut que je donne un peu d'amour, ce n'est pas dans mon éducation », il reviendra toujours à ce management un peu vindicatif, avec des joueurs qui trouvent qu'ils s'entraînent pas assez, et je pense qu'il y aura toujours les mêmes. Donc voilà, ils vont vivre sur cette fin de saison et l'aventure, et je pense qu'il y aura évidemment choses qui vont se passer à l'intersaison pour savoir si oui ou non on repart sur ces conditions-là.
Écoutez, peut-être pour comprendre un petit peu l'aventure lyonnaise, on écoute justement le deuxième ligne, Félix Lambé.
C'est une saison de fou, on a eu des hauts, des bas, donc finir troisième ce soir, c'est incroyable. Donc on fait une première mi-temps contre le Stade français, on croit que tout est fini. Derrière, on remonte, on fait match nul. Là, aujourd'hui, on fait un gros match, on encaisse des points d'entrée, mais on y retourne, on lâche pas. Et peut-être un de nos meilleurs matchs ici. Donc ouais, non, c'est inespéré, mais c'est notre groupe, il est comme ça. Je sais pas, c'est incroyable. On a toujours gardé notre objectif en tête. On savait qu'on n'était pas loin à chaque fois, que ça pouvait se jouer sur des détails, sur des points à l'extérieur, sur un match nul au Stade français, sur une victoire à La Rochelle. Pourtant, quelques temps avant, on perdait ici contre Brive. Donc voilà, c'est ça. Mais on a rien lâché toute la saison. On a été solidaires. Hein, et puis voilà, le premier objectif est atteint. Après, on est capable de tout. Hein, donc on va essayer d'aller chercher une demi et de franchir une étape supplémentaire encore.
Est-ce qu'ils ont un peu le couteau entre les dents, là, Denis ? Est-ce qu'ils se sont ça les a pas resserrés, tout ça ? On va pas dire autogestion, parce que c'est pas vrai, c'est pas complètement ça, mais un groupe qui prend ses responsabilités, qui se prend en main.
Moi, je pense que c'est à double tranchant. Ça se passe bien, mais ça aurait pu très mal se passer. Les joueurs auraient pu lâcher carrément leur entraîneur, ce qui n'a pas été le cas. Donc, de notre côté, on peut penser que le groupe vit bien et que le groupe a quelque chose à donner. C'est un peu ce que m'ont ressenti aujourd'hui. Après, ce que disait Pierre tout à l'heure, je vais dans son sens. Il ne faut pas tout mettre sur le dos de l'entraîneur. Chaque fois, les joueurs sont très mal placés. Souvent, pour ils ont du mal à faire leur autocritique, les joueurs.
Bah, c'est sûr. Et puis même, y a, dans cette histoire-là, il y a un petit comportement d'enfant gâté, j'ai l'impression. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que de plus en plus, les joueurs reprochent à leur entraîneur des comportements, des choses qui... Enfin, au bout d'un moment, c'est eux qui sont sur le terrain, ils peuvent se responsabiliser, ils ont le droit d'aller voir leur entraîneur pour leur dire que les choses ne vont pas. Là, aller voir le président, c'est quand même pas terrible. Enfin, il y a un truc qui me gêne dans cette affaire-là.
Oui, parce que tu peux crever l'abcès en interne, c'est évident, sans aller voir le président.
Après, si on enlève tout ce qu'on a évoqué là, tout ça, l'extra sportif, qu'on parle du terrain, le Loup, c'est quand même costaud.
Oui, ils surfent déjà sur une dynamique. Victoire en challenge européen la saison dernière, validée donc par des phases finales cette année, les premières depuis 4 ans. Un groupe qui se connaît bien, façonné par Mignoni depuis de nombreuses saisons et mis en musique parfois, donc difficilement, par Garbajosa cette année. Et si on avait un joueur à sortir, évidemment, c'est Joshua Tuisova, véritable facteur X de cette équipe, capable d'avancer à chaque impact et surtout de faire jouer derrière lui. On se souvient de cette image du Fidjien retournant Thomas Ramos lors du match à Toulouse. Il y a aussi les internationaux, Ethan Dumortier, Romain Taofifenua, Baptiste Couillou, Félix Lambé, Demba Bamba. Une troisième ligne monstrueuse avec Saguinadze ou Tsobela, des vieux grognards comme Doussin et Pélissier. Un beau mélange qui permet au Loup d'être offensivement extrêmement dangereux. Deuxième équipe en termes de points marqués, premier en termes d'essais, 81 essais marqués cette saison. Une volonté de jeu à outrance prônée par Garbajosa. Seul bémol, les blessures. Pierre en a parlé, le maître à jouer, Léo Berdeux, remplacé par Lima Sopoaga, qui symbolise à lui tout seul et finalement l'irrégularité du Loup, capable du pire et du meilleur sur un même match, voire même sur une seule action. Il va falloir trouver de la régularité ou de la constance pour espérer jouer les troubles faits.
Ouais, c'est vrai que.
Alors, et on a oublié Ninashvili aussi qui est blessé. J'en ai pas parlé, mais aussi, ouais. Ninashvili qui est également blessé.
Ouais. Bon, c'est dans la rotation, c'est vrai. Tu parlais de Sopoaga, Denis. Oui, c'est vrai que Sopoaga est un grand joueur, mais voilà, sur la rotation. Quand il y avait Héberdeux et Sopoaga, c'était quand même très fort dans la rotation. Denis, assez costaud, je disais costaud le Loup, assez pour passer l'obstacle UBB. C'est assez difficile de pronostiquer les matchs de l'UBB, Denis, toi le roi des paris.
On peut le penser, non, mais on peut penser déjà l'avantage du terrain. Je pense qu'à Lyon, déjà, c'est un véritable avantage. Après, attention Bordeaux. Alors, ils ont pété Ben Tamé et Founa.
Oh, bien. Ça, oui. Il a réussi, c'est pas vrai. Ils ont changé Denis Charvet.
C'est quand même une poutre dans le pack Béglé. Mais attention, ils ont quand même des arguments. Ils ont d'autres arguments. Le Bordeaux, ouais, c'est costaud devant. Faut pas l'oublier. Derrière, c'est très bon. Jalibert est revenu en bon niveau. Non, ils ont les arguments pour les contrer. Après, c'est vrai qu'à Lyon, quand t'as l'autre monstre au milieu du terrain, Tuisova, c'est une arme absolue, quoi. C'est le gars qui te fait des grosses différences. J'ai trouvé que Allen, le troisième centre, est exceptionnel. J'ai découvert un joueur hors norme, un Black, un mec de Néo-Zélandais qui peut pas de mine, mais qui a un abattage absolument incroyable. Et puis derrière, on connaît, bon, le pack tient la route, Bamba revient à bon niveau, et puis Couillou à la mêlée qui est le chef d'orchestre. Ils ont tout pour réussir. Après, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Attention, là, c'était Bayonne, ça a été très léger. Là, ça va être une autre confrontation face à des Béglés qui jouent en quart de finale, il ne faut pas l'oublier. Donc, que ce soit à l'extérieur ou pas, Bègles, ils ont la demi-finale dans un coin de la tête à Saint-Sébastien, c'est pas loin de chez eux, ça peut jouer aussi.
Alors, l'UBB, 11e attaque, 12e seulement au niveau des essais. Tu l'as dit, Julien, tu l'as dit, le Loup, c'est 81 essais. L'UBB, 53 essais marqués. Vous imaginez la différence. Par contre, les Bordelais sont la 4e défense. Pierre, ça traduit quoi, ça?
Peut-être que.
Je sais pas, une limite.
Non, mais peut-être que l'attaque bordelaise est très Jalibert dépendante. et qu'il a été absent presque 8 semaines au final. Je pense que ça joue beaucoup. Le Loup a une ligne de trois quarts qui peut s'exprimer parce qu'ils ont un paquet d'avant redoutable. On a mis le focus sur certains joueurs. Denis en a parlé, Allen, Bamba. Moi, il y en a un qui me bluffe, c'est Saginadze. Saginadze, c'est un bûcheron. Il gagne tous ses duels. Il est exceptionnel.
Tu le vois au contact. Hein.
Ah, mais c'est, ouais, je l'adore. Il sait rien faire, mais qu'est-ce qu'il le fait bien? Non, mais en vrai, il est très, très, très costaud. Peut-être qu'à Bordeaux, il y a pas ce type-là de joueur capable, depuis le départ de Wauquiez, de casser la ligne sur une accélération, un exploit. Ils sont dépendants à la fois de Jalibert et de Cordero pour quelques fulgurances. Après, Bordeaux,
Attention, Tom Willis. En 8, oui, le frère. Mais... Alors attention, c'est très impressionnant, Tom Willis.
Ouais, mais je le trouve un peu en dessous d'Allen, par exemple. Si on fait les face-à-face qu'on va forcément développer à quelques jours du match, je pense qu'en termes de numéro 8, Allen est un peu au-dessus. Après, c'est un match très difficile à pronostiquer. Hein. Franchement, les deux équipes se ressemblent.
Toi, le poète, tu aimes Russell et Saginadze, quoi. Comme
c'est le paradoxe de ma vie. J'adore la viande, j'adore les animaux, tu vois. C'est un peu la même chose. Ma vie n'est faite que de contraste. Tu vois, Wilfried, non, tout est une nuance
de
gris.
Le match, par contre, il a Gerland. Hein. Après, c'est les données à prendre en compte, par contre, les barragés, parce qu'ils ont battu leur record d'affluence ce week-end contre Bayonne. 25 000 à Gerland. Tu peux imaginer que le week-end prochain, il y aura autant de monde. Alors évidemment, ça ne peut pas jouer sur tout le match, mais tu sens que voilà, ils ont créé une dynamique et que voilà, ça va être difficile à prendre. Et puis surtout, le Loup, ils font quand même une saison. Et quand tu vois les joueurs qu'ils ont perdus à l'intersaison, Barassi, Ngatai, Faenga notamment, remplacé par Alan de manière plutôt...
plutôt pas mal.
plutôt pas mal, on va dire. Non, c'est vrai qu'ils ont perdu du monde. Le départ de Mignoni, on pensait que le Loup allait pouvoir peut-être une saison un peu particulière. Finalement, ils retrouvent les phases finales avec ce statut de numéro 3. Et peut-être même presque favori face à l'UBB en barrage.
36-21 pour le Loup à l'aller et revanche de l'UBB 23-9 à Chaban en retour. On va se dire aussi que l'un de ces deux clubs est sur la route de La Rochelle. Les Rochelais, les Minots plutôt, envie de dire, qui ont battu le Stade Français sans les cadres. Denis, c'est quand même, et c'est tout bonus pour O'Gara, pour le groupe, pour la dynamique quand ça se passe comme ça, non? Il met les jeunes et ils arrivent à gagner.
On le sentait après, quand tu as une telle dynamique, une telle confiance, une telle effervescence même, une telle communion.
Ils sont portés par ça, oui, même l'équipe B, hein, parce que là c'est vraiment le cas.
La communion, c'est quand ils sont rentrés de Dublin, c'est la communion entre le public, les supporters, les joueurs. Tu te rends compte, ça te fout un supplément d'âme qui est hors norme. Et c'est vrai que voilà, ils ont pu tourner, ils ont gagné le Stade Français qui était venu faire un résultat. Tout roule. Et puis là, je sais pas comment on va les arrêter, ceux-là. Là, ils vont avoir un week-end pour se reposer. Ils vont faire du frais parce que parfois on dit qu'il manque de dynamisme, mais ils ont une longue saison.
Je suis entièrement d'accord avec toi Denis, mais n'empêche qu'ils avaient fait tourner le match avant la finale de Coupe d'Europe. Ils ont joué la Coupe d'Europe, ils ont fait tourner après la finale de Coupe d'Europe et ils ont une semaine en moins. Ça veut dire que les titulaires, ils vont jouer un match en 4 semaines.
Oui, mais
est-ce que c'est pas un problème?
Non, c'est pas un problème. Pour moi, c'est pas un problème. Franchement,
mais les Toulousains, c'est pareil. Hein. Ils avaient fait tourner à Perpignan, ils n'ont pas joué pendant 15 jours, ils jouent après, ils ne jouent pas pendant 15 jours.
Non, mais on met toujours en avant le rythme. C'est le grand truc, tu vois, le dada, c'est de dire « Ah, ça manque de rythme ». Mais les mecs sont une saison longue, les Coupes d'Europe, elles étaient longues, le tournoi, tu vois.
Mais tu perds pas de la tu perds rien en trois semaines.
Un gars comme Aldrit, mais c'est un bonus de pouvoir se reposer. Je pense qu'Aldrit, s'il avait enchaîné derrière deux matchs et jusqu'à la finale, il aurait été cuit, il serait arrivé en finale cuit. Là, il va régénérer, il va repartir. C'est tout bonus pour eux. Enfin, pour moi, c'est tout bonus.
Et n'oublions pas les phases finales la saison dernière où les Montpellierains étaient dans ce même cadre. Ils n'avaient pas joué les finales de Coupe d'Europe, ils n'avaient pas joué le barrage, ils n'avaient quasiment pas joué pendant un mois. Ils sont arrivés frais contre Bordeaux où ils leur ont cassé la bouche d'entrée. Et on se rappelle que les Toulousains eux, étaient oxy sur leur demi-finale.
À cause
et que la fraîcheur, même si c'est vrai qu'ils n'ont pas joué depuis trois semaines, ils sont tellement rodés par O'Gara, ils savent tellement ce qu'ils doivent faire que je ne pense pas qu'ils perdent en trois semaines tout ce qui a fait leur force.
Alors, on vous a parlé de ce premier barrage, on le rappelle. Loup UBB sera dimanche 4 juin, dimanche soir prochain, 21h05. Derrière le Loup, classement. Le grand mystère de ce haut de tableau, les clubs parisiens et franciliens. Stade Français Racing, le 4e contre le 5e. Le derby sera Jean Bouin. Attention, hein, l'horaire initial était changé. Hein, normalement, c'était samedi soir, le barrage. Mais comme le PSG joue au parc le soir même, c'est 14h. Samedi 3 juin, à 14h, Denis fera un barbecue des midis sur le parvis. Il vous attend pour les merguez.
Non, ça a été décidé.
Il va surtout faire la soirée après match, t'as compris.
Normalement, avec Vincent Moscato, on arrive à 4h, 5h avant. Donc là, à 9h, on va déjeuner. Échauffement à 11h.
Et je prends un moniteur à côté.
Et l'apéro, et donc, et l'apéro après, après 10 minutes, il voit plus du tout le match.
Et l'apéro à 16h30, on le fera quand même.
Hein, et le mieux, messieurs, dames, sur Instagram, de superbes vidéos. Ça donne généralement voilà, de superbes vidéos, ça. On écoute Gonzalo Quesada à la sortie de la défaite à La Rochelle ce dimanche soir.
J'ai un petit truc sur le fait qu'on a passé 18 journées dans les top 3, dans une saison plus que compliquée. Même si on savait que gagner La Rochelle, peu importe l'équipe, avec cette ambiance, ce niveau de confiance, on savait que ça allait être dur. J'aurais bien aimé finir troisième. Mais de l'autre côté, on est top 4. Personne, je pense, qui avait parié pour ça en début de saison. Donc on va rentrer à Paris, essayer d'avaler cette déception, parce que c'est vrai que jusqu'à 5 minutes de la fin, on partait de La Rochelle avec une victoire.
Ah, c'est vrai, ils sont top 4, mais quand il dit avaler cette déception, Denis, on a connu mieux pour aborder les phases finales.
Ouais, mais tu parles du contexte du match. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est à l'image de la saison du Stade Français. Il faut pas se tromper non plus. Hein. Il y a eu ils ont pas fait une grande saison. Hein.
Ils étaient quand même haut dans le classement assez souvent.
Oui,
hein,
mais haut ne veut pas dire qu'ils réussissent.
Malgré le contexte matchs. En plus. Ouais, le départ de Gonzalo,
le contenu.
Oui, mais le match de Lyon te prouve un peu à l'image cette saison. Une première mi-temps très bonne et puis une deuxième mi-temps catastrophique. Donc il y a eu des hauts et des bas. À l'arrivée, ils finissent quatrième. Je trouve que c'est un peu pas miraculeux, mais c'est bien.
C'est bien payé.
Voilà, c'est bien payé. Ils vont recevoir le barrage. Ils peuvent espérer une demi-finale. Non, c'est super pour eux, mais je pense que c'est une saison transitoire, sincèrement. Je pense que l'année prochaine, il y aura une autre saison qui va arriver. C'est pas faire injure à Gonzalo, c'est que je pense que derrière, c'était un peu léger au niveau de c'est un peu léger, voilà, par rapport à des clubs comme même le Racing, voire Lyon, voire La Rochelle ou Toulouse, tout simplement.
C'est deux équipes avec une fin de vie, hein. Les deux staffs qui vont s'en aller, également Racing, ils ont la même histoire finalement. Et c'est deux équipes très irrégulières où tu sais, là, ce match, tu sais pas du tout. Denis l'a dit, le Stade Français, ils sont capables du pire.
Mais alors, il faut un derby pour les réveiller.
Racing, pareil.
Vous pensez qu'il faut un derby pour les réveiller, justement.
Mais réveiller, ça.
Bon, moi, j'ai regardé en focus vraiment La Rochelle Stade Français. Déjà, je ne comprends pas comment le Stade Français ne gagne pas. Ouais, je pense qu'ils passent 25 minutes dans les 22, ils n'arrivent pas à marquer. Donc déjà, c'est pas le symbole d'une équipe en confiance qui joue facile. Et puis l'autre truc, c'est le jeu du Stade Français, c'est quand même très limité. C'est très limité. Alors je comprends Gonzalo Quesada qui dit qu'il est un peu déçu de finir quatrième. Je trouve ça extrêmement bien payé parce que cette année le Stade Français c'est quand même pas les All Blacks. Hein. Là il faut se mouiller un peu la nuque avant de regarder les matchs parce que ce soit Joris Segond ou que ce soit Léo Barré. Dans l'animation, on est quand même plus sur des grandes chandelles et des jeux dans le dos du premier rideau que sur des combinaisons de rêve. Alors, je veux bien que le Stade Français soit déçu de ses quatrièmes places. Moi, je pense qu'ils peuvent s'avouer très heureux d'y être. Après, alors, ça sera peut-être une équipe redoutable à jouer. Mais j'avoue que j'ai l'impression que le Racing est un peu plus armé, un peu plus solide et un peu plus certain de ce qu'ils ont envie de faire que le Stade Français.
Alors, je ne sais pas si on parle des deux équipes. Mais si
ça, on va attendre juste avant de parler du Racing, Denis. Ouais. Fil conducteur très important. La dernière question la dernière réflexion sur le Stade Français. Pourquoi croire au Stade Français? Parce qu'il y a le PAC, le retour de Parra, le fait qu'ils aient second en meilleur réalisateur du championnat aussi.
La mêlée, d'ailleurs, je pense qu'ils ont
la meilleure mêlée.
Ils ont survécu grâce à leurs avants. Il ne faut pas se tromper non plus. Il ne faut pas se leurrer. En plus, la difficulté, c'est que Morgan Parra, qui doit être le chef d'orchestre, a été longtemps blessé.
Il y a 3 mois.
Là, il revient. Donc, c'est plutôt une bonne chose pour le Stade Français, mais devant, attention, c'est costaud. Hein. Ils ont.
Oui, parce qu'un pack, une mêlée, un buteur, c'est un truc de phase finale aussi.
Oui,
ça,
non, mais
parfois.
Mais tout à fait. Non, mais c'est pour ça que on va parler de la confrontation très vite. Mais devant, ils ont surtout un banc très très fort aussi. Donc, ils ont les atouts pour perturber une équipe du Racing. Ça, c'est certain.
En face, la drôle de saison du Racing, un derby pour réveiller le Stade Français. Juan Imhoff, l'ailier du Racing, il dit presque pas autre chose.
On se connaît par cœur, je pense qu'il y en a autant d'amour que d'haine, donc je pense que ça va être un beau derby, et je ne parlerai pas de rugby parce que ça va être vraiment un truc de caractère et de ceux qui en veulent le plus. Je pense qu'on a quand même des joueurs avec beaucoup d'expérience, il y en a des joueurs avec assez d'expérience qui vont, j'espère qu'on va vite tourner la page, et puis là on en a que 4 jours pour s'entraîner, même pas, puis je pense que j'ai plein de confiance dans cette équipe qui est prête à tourner la page, savoir si tout le monde sait ce qu'il n'a pas bien fait aujourd'hui, puis on va attaquer le derby de toute façon.
Alors le Racing, on l'a dit, comme le Stade français en fin de cycle, fin de mission pour Laurent Travers avant l'arrivée de Stuart Lancaster, est-ce qu'on est capable d'analyser cette équipe qui, alors désolé encore avec les stats, mais meilleure attaque et 12e défense, c'est fou. Est-ce qu'on arrive à analyser le Racing? Est-ce que vous arrivez à analyser le Racing
non,
cette saison?
Pas du tout. Alors, c'est vraiment une bonne question parce que moi j'ai du mal à analyser.
Désolé pour les gens qui téléchargent le podcast.
Mais surtout, non.
Est-ce que vous savez? Non.
Et vous, si vous savez, vous nous dites, vous nous envoyez des messages.
Mais je vais te répondre. Pourquoi j'arrive pas à analyser? Parce que.
Quand je vois
l'effectif, quand je vois le potentiel, je me dis, mais comment cette équipe peut avoir des hauts et des hauts, des si grands hauts et des si grands bas? Moi, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre.
C'est Finn Russell, quoi. C'est à l'image.
Oui et non, parce que même devant, c'est très inconstant. Alors, est-ce que c'est le départ de la perte de Leroux, qui on sait qu'il était un fer de lance, qui mentalement a apporté une autre dimension au PAC? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas expliquer, qu'on a du mal à expliquer ce va-et-vient, quoi. Et cette deuxième mi-temps catastrophique à Clermont qui leur empêche de recevoir. Non, mais tu te dis, je suis le Racing, je vais à Clermont. Je ne sais pas, t'as toutes les armes en main pour te qualifier et recevoir l'Arena. Puis c'est pas la même histoire. Tu vas à Nanterre à l'Arena.
Ils sortent d'un stage en plus, ils mettent une équipe titulaire.
Tu me dis, tu vas à l'Arena, tu fais Racing et Stade français, je te dis Racing ne peut pas perdre. Là, je te dis, le Racing peut perdre, à Jean Moins. C'est pas la même. Donc ils se sont quand même plus ou moins tiré une balle dans le pied aujourd'hui. Après, peut-être que l'histoire me donnera tort, mais c'est quand même incroyable, quoi. J'arrive pas même à l'imaginer, quoi.
Est-ce que vous êtes d'accord, Julien, Pierre, il y a vraiment, on a l'impression qu'il y a trop d'incertitudes dans ces équipes, et on parle du Racing pour s'imaginer une aventure en phase finale. Il faut quand même qu'un poil de certitude. Des fois, on parle de Lyon, des aventures comme ça, mais dans le jeu, il y a eu tellement de hauts et de bas. Je sais pas, vous, est-ce que vous miseriez
Sur les quatre
vos PEL sur le Racing au Stade français, sans leur faire injure.
Mais sur les quatre là, moi je trouve qu'il y a trop d'incertitudes. Elles sont trop illisibles, ces équipes là. Tu l'as dit, le Racing meilleure attaque, mais 12e défense. Comment tu vas exister dans le rugby moderne où tu sais quand même que la défense est quand même la priorité? La seule équipe, moi, des quatre, je me dis, qui pourrait peut-être perturber, c'est Lyon, mais derrière, je trouve que c'est trop irrégulier, ces formations là. Moi, je me rappelle du Racing que j'ai vu à Perpignan là. Alors évidemment, Perpignan et Mégiral sur la fin de saison, ça a bien joué. Mais cette équipe du Racing, elle est capable de, sur une action, de traverser le terrain, mais après,
puis
pendant
10
minutes, plus rien, plus de lumière, voilà, plus de lumière. S'ils se font un peu rentrer dedans, c'est terminé. C'est une équipe, mais je pense que t'es entré dans cette équipe-là, tu deviens fou, quoi.
Ouais, je suis d'accord avec toi, sauf que là, quand même, le contexte me fait dire quand même que le Racing, s'ils ne sont pas devant, ils ne s'engagent pas, je pense qu'il va y avoir un gros combat devant. Et c'est pour ça que je me dis quand même qu'on risque de voir un match très fermé, contrairement à ce qu'on peut penser, avec des engagements au-delà, à la limite. Donc il y a tellement de tension dans ces matchs-là. Là, il y a quand même
ils auront peut-être peur de prendre des initiatives avec justement ce qu'on vient de dire, le manque de confiance,
la
pression.
La tactique, ça va être la stratégie, ne sera pas la même qu'habituellement. Je pense qu'il va y avoir un gros combat d'avant et beaucoup de jeux au pied, il me semble.
Mais ça favorise qui, ça? Pierre, plutôt le Stade français, peut-être?
Sur le papier, oui. Toutes les planètes semblent alignées pour le Stade français. On s'attend à un match fermé où ça va se jouer plutôt sur le pied et sur la conquête. C'est leur point fort. Ils jouent à domicile. Oui, mais le seul truc, c'est que le Racing a des meilleurs joueurs en termes d'individualité. Sur le papier, on a le sentiment que le Racing a un plus gros effectif, un plus gros banc, plus d'expérience. Je sais pas. J'ai l'impression que de toute façon, les deux barrages vont être assez indécis. Je vois pas une équipe largement au-dessus des autres. Ouais. Et l'autre conviction que j'ai, c'est que malheureusement, aucune des quatre équipes n'est pour l'instant armée pour remettre en question de la domination ni de La Rochelle ni de Toulouse. Et c'est ça qui me fait un peu peur pour le niveau du championnat. C'est qu'aujourd'hui, le 3, 4, 5, 6, il semble quand même être vraiment un tout en dessous des deux premiers.
Eh ben c'est parfait, c'est la passe décisive, ça c'est le fil conducteur, parce qu'on enchaîne avec Julien, parce qu'il y a moins en moins de surprises. T'as vu, Denis, comment c'est le niveau là,
c'est
un
huilé.
Peu concernant, ouais, il y a moins en moins de surprises, Julien, concernant, arrête s'il te plaît, concernant ces phases finales, c'est difficile de se hisser des barrages jusqu'au bouclier.
Alors déjà, depuis l'instauration des barrages, et depuis 2009, le premier ou le deuxième a systématiquement été en finale. Donc c'est-à-dire que là, on peut déjà parier aujourd'hui, ton PEL, Wilfried, que ou Toulouse ou La Rochelle seront parmi les finalistes, voire même les deux, c'est déjà arrivé. Et c'est vrai qu'il faut remonter à 2018 pour voir la dernière surprise d'un barragiste qui avait réussi à renverser la table jusqu'au bout. On se rappelle de Castres, hein, avec Montpellier qui avait terminé premier du championnat, avec le Racing deuxième, et finalement les Castrés qui étaient venus renverser le bloc sud-africain Montpellier,
ils battent le Racing, ils battent Montpellier. Ouais. Ouais.
Exactement, et donc ils avaient vaincu. Mais depuis cette finale-là, 2018, depuis 2019, eh ben, le premier et le deuxième se sont toujours retrouvés en finale. Toulouse et Clermont en 2019, Toulouse et La Rochelle en 2021, avec à chaque fois une victoire toulousaine. Et la saison dernière, Castres qui avait terminé premier, le MHR qui avait terminé deuxième, avec les Montpelliérains qui avaient finalement levé le bouclier. Mais on en revient à cette densité du top 14, où c'est tellement compliqué aujourd'hui d'aller s'arracher. Tu peux plus faire d'impasse, et bien que t'enlever un match de barrage où c'est à la mort, et bien ça te permet tellement de régénérer l'effectif que t'as l'impression qu'aujourd'hui il faut systématiquement finir parmi la première ou la deuxième place pour espérer aller toucher le bouclier de bois, parce que voilà, depuis 4 ans c'est tellement dense le championnat qu'il n'y a plus le droit à l'erreur quasiment.
Denis, tu voulais ajouter ?
Non, c'est exactement ce que j'allais dire. Il n'y a pas de maintenant. Puis, alors, le problème, en plus, il y a la suprématie de La Rochelle. Il n'y a plus de trop de doutes, donc ça va être encore plus compliqué.
Alors, ouais, samedi 14h, le vainqueur de Stade Français Racing jouera ensuite le vendredi 9 juin, le vendredi soir à 21h. À Saint-Sébastien, face au Stade Toulousain qui s'est imposé sans problème 54-10 face à Brive avec 8 essais à la clé. Toulouse qui est cette semaine en stage, ils sont partis 4 jours à Faro au Portugal. Toulouse tapis dans l'ombre un peu, Denis, parce qu'on a beaucoup parlé de La Rochelle depuis des jours et des jours avec la victoire en Coupe d'Europe, ouais, avant, après.
Toulouse, ils sont en train de nous écouter, et ils sont en train de
ouais, c'est ça.
D'avoir un peu la haine, d'emmagasiner. Voilà.
Hugo, il imprime tous les articles. Là.
Là, ils vont dire, vous allez voir, parler de La Rochelle, ça nous arrange. Non, mais ouais, oui, c'est évidemment.
Et culturellement, historiquement, Toulouse a toujours fait ça en plus.
Oui, bien sûr.
Ils
se nourrissent de ça. Ça leur permet d'avoir des leviers formidables de motivation, des sources de motivation incroyables. Mais après, il y a la réalité du terrain aussi. Après, Toulouse, ils sont armés pour battre La Rochelle, évidemment. D'abord, ça passera par une victoire contre le Stade Français ou le Racing, ça c'est sûr.
Mais est-ce que le Stade Français et le Racing sont pas voués à aller se fracasser sur le Stade Toulousain, là, vu ce qu'on vient de dire sur la saison, les performances.
Il me semble pas tellement sur la qualité pure, c'est sur la fatigue. C'est-à-dire qu'ils vont arriver à Saint-Sébastien
le calendrier
va aider, après le vendredi après un barrage qui va être terrible pour moi. Je pense que ça va être très très engagé, très intense. Donc
je ne sais pas quel temps il va faire à 14h samedi à Paris, mais ça peut s'il fait
fraîcheur,
chaud aussi en
la
plus.
La fraîcheur un vendredi soir à Saint-Sébastien.
6 jours après.
La fraîcheur sera toulousaine et je pense qu'ils vont être vite débordés l'un et l'autre, il me semble.
Après sur ce genre de match.
Ils ont joué un match les Toulousains depuis un mois. Un gros match quoi. Et en plus contre Brive hier, on peut pas dire qu'ils ont joué un gros match. Donc
ouais,
en plus,
mais
eux,
bon,
ils sont en train de faire du jus, Denis, les Toulousains là. Ils vont attendre les Parisiens. Ça peut être une boucherie. Hein.
Après, attention, sur ce genre de match, il y a quand même une tendance sur les dernières phases finales à avoir régulièrement des cartons rouges. Et je ne dis pas que ça va arriver. Je dis simplement que sur un match comme ça, où on peut arriver les mains, pas forcément les mains en haut du guidon, mais en confiance, voilà, on est certain d'avoir plus de fraîcheur, plus de certitude. Sur le papier, Toulouse sera plus fort. Attention à ne pas subir un fait de match délicat à gérer, parce que d'un coup la dynamique est plus la même, et face à des équipes comme le Racing ou le Stade Français, quand il y a l'odeur du sang, on sait qu'il y a les deux équipes.
Oui, puis on sait très bien, Pierre, que sur un carton en début de match, un rouge, n'importe quoi peut,
ça remet tout en question, voilà.
Ça peut arriver, attention à ça aussi, ouais.
Même s'ils sont ultra favoris, je vois pas comment, à part sur ce cas de figure précis, comment le Stade Toulousain pourrait perdre.
Alors voilà pour ces phases finales. Peut-être petit tour de pronostic, les demi pour vous.
Je pense Racing Toulouse.
Racing Toulouse,
oui.
Pierre.
Et je vois
La Rochelle,
match nul à la mi-temps entre Bordeaux et Lyon. je me mouille, La Rochelle-Lyon.
Ok, Denis.
Bon, allez, j'y vais avec sincérité, on va dire. Racing
avec
Toulouse.
La tête, pas avec le cœur. Hein.
Racing Toulouse et ouais. Lyon-La Rochelle.
D'accord. Julien,
ça sera l'inverse, évidemment.
Je vois pareil. Je pense que le Racing.
Mais moi, je vois Stade Français, Stade Français
et Bordeaux.
Stade Français, Toulouse. Et non, et Lyon, La Rochelle.
Bon, ben, on a tous.
Voilà, on verra.
Bon, tout le monde a vu Lyon.
Vous avez on a bien enregistré, on en reparle la semaine prochaine. Voilà pour ces phases finales. On espère avoir été complet. Deux actualités aussi. Dans ce podcast, ce sont les adieux. La première sont les adieux de certains joueurs sur le terrain. On a une pensée pour le castré Thomas Combezou, qui était blessé, n'a pas pu rejouer. Il était au coup d'envoi de Castres Perpignan. C'est dur de finir comme ça. Hein. Il avait les croisés cette saison. Grand guerrier du CO. À Toulon, l'émotion était forte hein, pour les sorties des seigneurs, entre guillemets, Sergio Parisse, Mathieu Bastaro. Écoutez, Bastaro qui a évoqué son histoire d'amour avec Toulon, avec le RCT.
Finir ma carrière à Mayol, pour moi, ça signifie beaucoup parce que même si je suis un Parisien, j'ai été adopté ici. Que ce soit le club, les supporters, ils m'ont toujours témoigné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Moi, j'ai essayé de leur redonner... Sur le terrain et c'est pour ça que voilà, quand j'ai eu l'opportunité, que la porte était un peu entrouverte pour que je puisse reprendre le rugby, que ça pouvait se faire à Toulon, j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir le faire parce que c'est quand même un endroit et un club particulier.
Ça fait toujours bizarre, les gars, dans ces moments-là de fin de saison. Les joueurs accrochent. Il y a eu les Michalak et du Sautoir, Guirado. Il y aura Para bientôt. Alors, je sais pas, c'est pour les plus vieux, ça. C'est avec toi, Denis. Il y a pas un peu de nostalgie quand on voit ces mecs partir, en fait, sortir du terrain et voilà, des pages qui se tournent comme ça.
Oui, bien sûr. Mais surtout des personnages comme Mathieu, qui faisait partie du rugby français et qui était encore vivant. Là, c'est vrai, quand tu t'en vas,
bon, là. La retraite de Lucien Mias,
de Jean Prat.
Non, mais. Par rapport à Mathieu, il faut dire la trace qu'il laisse dans le rugby.
Oui,
trois fois champion d'Europe
avec
Toulon, c'est énorme. Ouais. Il a été en équipe de France, il n'est peut-être pas au meilleur moment, mais il a toujours été là.
Il s'est passé plein de choses avec lui.
Il a été blessé, souvenez-vous, il a eu les deux genoux au même moment. Il est arrivé à un truc dramatique, il est arrivé à revenir, à rejouer. Moi, je voulais l'avoir comme capitaine des Barbarians l'année dernière, et il s'est blessé juste avant la tournée contre les États-Unis. Il était malheureux parce qu'il voulait vraiment honorer cette sélection Barbarian, parce qu'il n'avait jamais goûté au Barbarian. Mais voilà, c'est un personnage attachant, mais surtout, c'était un joueur incroyable, hors norme. Et puis, souvenez-vous quand même, si on a la mémoire, quand il est arrivé dans le rugby, on s'est dit, c'est un monstre.
Ouais, c'était un ovni quand il est arrivé de Massy. Faire sa carrière en 15 secondes, repérer à Massy où Bernard Laporte veut le emmener en tournée alors qu'il n'a jamais joué un match de top 14. Il a 18 ans, il se blesse au genou, il ne peut pas y aller. Derrière, il se tue au Stade français, il gagne son duel face à des monstres comme Stéphane Gla qui était titulaire au Stade français. Il arrive à s'y imposer. Il arrive à s'y imposer à moins de 20 ans. Il est Schlemmer avec l'équipe de France en 2010, où d'ailleurs, les larmes dans les yeux, il dit j'ai enfin quelque chose à moi, parce que c'est quelqu'un qui revient quasiment de nulle part.
Et l'épisode
néo-zélandais qui va marquer sa carrière.
Il revient,
il est sifflé sur tous les terrains de France. Il fait une tentative de suicide, il tombe dans la dépression. Il signe à Toulon alors qu'il est au fond de la gamelle. Bernard Laporte va le chercher. Et derrière, trois titres de champion d'Europe, un quatrième avec la petite Coupe d'Europe à Toulon, un parcours incroyable. Voilà.
Il n'est pas pris en 2019 à la Coupe du Monde alors qu'il était capitaine sous l'ère Brunel à un moment. Ça n'a pas été linéaire, mais voilà.
Carrière
on peut saluer
exceptionnelle.
Cette carrière magnifique, que dire de celle de Sergio Parisse, évidemment.
Seigneur.
C'est toujours un peu de nostalgie quand ces mecs quittent le terrain.
Ouais, et puis si les gens ont, comme moi, dans la trentaine, c'est la première génération de joueurs qu'ils ont vu débuter et arrêter, et ça fout vraiment un coup de vieux. Ça, c'est horrible.
Tu verras, écoute.
Non, j'ai pas envie d'en parler, Wilfried.
Tu verras quand tu auras commenté le match du père et qu'après tu fais le fils, comme Henri a fait au-dessus de la Guy. Là, c'est encore une autre étape dans la
vieillesse.
Bon, il y a un deuxième fait d'actualité qui est quand même beaucoup moins souriant, qui est autour de Mohamed Awas. Ce week-end, qui a été interpellé, mis en garde à vue et déféré. C'est pas un épisode glorieux si les faits sont confirmés. Julien, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, ce qui s'est passé et où on en est?
Des faits de violence sur la place publique vendredi après-midi. Mohamed Awas a été devant le travail de sa compagne. Le ton est monté entre les deux. Il lui a mis une balayette, il a frappé au sol, tiré sur des centaines de mètres pour la mettre de force dans la voiture. Les gens ont cru à un kidnapping, donc ils ont évidemment... personne ne s'est interposé, parce que quand tu vois Mohamed Awas, évidemment, c'est pas forcément simple de s'interposer, même si les gens se sont... manifesté, et ils ont donc appelé la police. Mohamed Awas a été interpellé en fin de soirée vendredi soir, 2 jours de garde à vue, déféré devant le parquet dimanche matin, devant le juge des libertés, qui a donc décidé, devant la gravité des faits et surtout sur quoi insistait le juge, c'est pas il y a eu évidemment la claque qui est très grave et que tout le monde condamne, mais il y a aussi la longueur de la scène très violente. plus les faits qui étaient déjà connus de Mohamed Awas. Il est en attente d'un jugement pour l'affaire de 2014 où il avait été jugé au début du mois de mai. Le délibéré est pour attendu à la fin du mois de juin. Et donc la juge des libertés l'a placé en détention au quartier d'Arrivant de Villeneuve-les-Maguelones à la prison. Donc il est à la prison depuis dimanche matin. Et il sera jugé ce mardi après-midi à 13h30 en comparution immédiate. Sa femme n'a pas porté plainte. Elle ne souhaite pas qu'il aille en prison. Du côté de Clermont, évidemment, on se pose beaucoup de questions avec est-ce que Mohamed Awas ira en prison ou non ? Est-ce qu'ils vont dénoncer le contrat ? En sachant que Mohamed Awas sera en contrat à partir du 1er juillet du côté de l'ASM et que si à cette date-là, Mohamed Awas est en prison, Clermont pourra dénoncer son contrat. Et Mohamed Awas se retrouvera sans club parce qu'il est libéré de son année Montpellier-Rennes. Mais la carrière de Mohamed Awas, clairement, dans le rugby, se joue demain après-midi. Et en cas de condamnation, sa carrière sera probablement terminée.
Denis, le rugby a aidé Mohamed Awas dans la vie, mais là, il pourrait tout perdre. On ne parle même pas de la Coupe du Monde, mais de la suite de sa carrière. On a aussi une pensée à toutes les femmes victimes de violences conjugales. C'est très compliqué. C'est sur un fil pour lui, parce que c'est... Voilà.
Écoute,
c'est sans le rugby, il aurait pu plonger, mais là, il pourrait replonger.
Ouais, je pensais qu'il replongerait pas parce que je l'avais croisé plusieurs fois pendant le tournoi. C'est un garçon qui comprenait les choses, qui est très attachant, qui en même temps, tu sens aussi qu'il y a quand même son passé qui est toujours là à la surface. Donc, si de temps en temps, tu as des frayeurs avec lui. Donc, voilà, ce qu'il a fait est impardonnable, évidemment. Tu l'as dit, Julien, demain, il jouera sa carrière demain avec le prononcé, évidemment. Voilà, c'est triste et moi je suis très triste pour ce garçon, même si, je le répète, c'est impardonnable.
J'ai deux phrases juste, Wilfried, pour finir, qui me reviennent lors de ce procès du début du mois de mai, lorsque la présidente rend son verdict. Mohamed Awas parle et dit voilà, j'ai soldé mon affaire avec mes erreurs du passé, je ne souhaite plus jamais revenir ici. Donc ce que dit Denis, tout le monde pensait qu'il avait retenu la leçon, malheureusement c'est pas le cas. Et je me souviens de cette phrase du procureur lors de son délibéré où il avait dit: Monsieur Awas, en 2014, vu votre parcours, votre vie, j'aurais pensé que vous seriez devenu un grand délinquant. Je tenais à saluer votre parcours, vous êtes un exemple pour tout le monde. Évidemment, un mois plus tard, ses propos changent complètement de tenue. Et demain après-midi, évidemment que Mohamed Awas, ça va être très compliqué pour lui.
On finit en félicitant Oyonnax, vainqueur de la finale de Pro D2 face à Grenoble 14-3. Retour en top 14 pour Oyonnax. Le deuxième ticket de l'élite se jouera samedi prochain au Stade des Alpes entre Grenoble et Perpignan. L'USAP, comme l'an passé, ils étaient à Mont-de-Marsan et ils avaient gagné. L'USAP qui revit cet access match si particulier. Enfin, pour vraiment terminer, on voulait vous parler du podcast Coupe du Monde de RMC Sport.
Merci.
Avec Adrien Aigouin et Denis Charvet. C'est nouveau. C'est à télécharger sur les plateformes. Denis, vous revenez sur les différentes coupes du monde de l'histoire. Il y en a 10,
coupes du monde,
évidemment.
Avec des acteurs de l'époque, Cabane, Philippe Sella, M. Tamac.
Voilà, justement, il y a déjà deux éditions qui sont sorties. 1987 avec l'idole Philippe Sella, 1991 avec Laurent Cabane. Et ce mercredi, nouvel épisode, 1995 d'Afrique du Sud, Émile M. Tamac en grand témoin, qui parle notamment de la demi-finale entre la France et les Box. Extrait.
Vous voyez le peuple blanc et noir dans un stade s'embrasser. Le mec il me dit: mais j'ai jamais serré un blanc de ma vie. Et je lui dis: mais sérieux? Oui, il me dit: mais on n'avait pas le droit. Je veux dire. Et là, il nous expliquait en deux secondes que ça, c'était jamais arrivé. Le mec il pleurait avant le début du match, devant Mandela avec le maillot. Franchement, c'est là que j'ai compris. Je dis: mais quelle chance qu'on n'ait pas gagné.
La suite à télécharger à partir de ce
excellent
mercredi. Voilà.
Émile M. Tamac.
Excellent Émile M. Tamac. Merci les potos. On se retrouve la semaine prochaine pour évoquer les demi-finales à Saint-Sébastien. On va se mettre au tapas pour s'acclimater un peu. On va toute la semaine, quoi. On va
mettre à la diète surtout pour t'habituer.
C'est vrai, pas l'émission des clichés ici, c'est ça qui est bien.
Ça va pas nous arranger en fin
paella,
de saison.
La paella, les tapas, au lait, ouais, d'accord, ok.
Non, je peux dire que tapas à Saint-Sébastien, il n'y a pas de clichés, ils y sont vraiment, t'inquiète pas. Merci de nous suivre. Abonnez-vous pour ne louper aucun épisode, comme un fil conducteur en gros que vous auriez tout le temps. Voilà. C'est voilà. Allez, des bises. On embrasse tout le monde, on vous embrasse. Merci de nous écouter. À la prochaine. Ciao.